de vous voir en mois de juillet. Et je ne sais pas si vous êtes complètement disposé, mais j'espère que même en juillet, même en période où les autres peut-être sont en vacances, sauf vous, vous avez encore envie et à cœur d'entendre la parole de Dieu. Vous êtes là ce matin? Si votre voisin est déconcentré, vous le réveillez de façon spirituelle, sans lui mettre en aucun cas ni un moment de honte, ni rien. Soyez très rempli de tact et de finesse. Alors, je vais vous dire le thème de ce matin est un petit peu différent, puisque ce n'est pas une histoire de la Bible que l'on va étudier, ça sera un thème que j'ai sur mon cœur. Et il y a quelques jours de cela, j'étais à côté de l'escalier là-bas, et une sœur de cette église qui est venue me dire en disant Yvan, est-ce que un jour tu pourrais faire une étude ou bien m'expliquer vraiment à quoi sert l'église? Et c'est vrai que. On va dans une église par habitude, par routine. Vous êtes peut-être, c'est dimanche, vous vous réveillez, et vous dites, ah, dimanche, quand le réveil sonne, c'est différent, il faut que j'aille à l'église au culte de 11h30. Puis c'est bien, c'est plutôt tard, c'est pratique pour vous. Et vous allez peut-être par habitude et par routine. Mais est-ce que l'église, ça sert à quelque chose? Franchement, l'église, à quoi ça sert? Et j'avais promis de travailler sur ce thème, mais bon, j'avais pas de révélation, pas de choses concrètes. Et j'ai dit, écoute, je réfléchirai et quand j'aurai quelque chose, je l'apporterai. Et ce quelque chose, je l'ai ce matin pour vous. Mais j'ai un peu honte de vous dire comment je l'ai trouvé. On est au mois de juillet et c'est la première fois en 6 mois que je me suis permis d'aller au cinéma. Parce que j'avais eu un tout petit peu plus de temps. Bon, j'étais bien encadré, attention, hein. Je suis allé avec Jean Desrestal, le directeur de la louange de Créteil, donc ça allait. Et puis la directrice des services du dimanche, Johanna. Donc j'étais, voilà, un garde à droite, un garde à gauche. On va au cinéma, le film était très correct. Et Dieu m'a parlé dans le film, dis donc. Un film qui n'a rien à voir avec la Bible. Dieu m'a parlé. C'est étonnant des fois comment Dieu nous parle. Hein. J'ai été voir au cinéma le film de Brad Pitt, World War Z, si vous l'avez. Certains peut-être l'ont vu. Ceux qui l'ont vu, vous allez avoir un avantage sur les autres parce que vous allez tout de suite être rentré très vite dans le message de ce matin. Pour les autres, je vais devoir vous expliquer un petit peu. Le film commence avec le héros, Brad Pitt, et sa famille. Ils sont dans une voiture à Philadelphia, pris dans un bouchon. Et tout d'un coup, ils se rendent compte qu'un homme à côté d'eux devient fou. Son comportement change, il commence à devenir extrêmement violent et il commence à s'attaquer aux autres personnes autour. Et cet homme-là, quand il mord les personnes autour, le virus se propage. Et tout le thème de ce film, c'est comment s'en sortir contre un virus qui veut détruire une vie. Comment se débarrasser d'un virus mortel? Très puissant, très puissant. Alors, on va ouvrir ensemble notre Bible dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, au verset 16. Comme ça, vous retiendrez bien la référence et le chapitre. Matthieu 16, 16. Vous allez peut-être avoir un peu de mal au début à voir le lien entre cela et une église, à quoi ça sert. Matthieu 16, 16, Simon Pierre répondit à Jésus, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, mais c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon Église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Est-ce que l'église sera attaquée? Oui, elle sera attaquée. Est-ce que un enfant de Dieu est attaqué? Oui, il est attaqué. Si bien que l'on lit dans Luc 22, Luc chapitre 22, au verset 31. Vous connaissez bien ce texte, qui est un avertissement de Jésus. Qui parle à Simon-Pierre, qui sera le bâtisseur de l'église de Jérusalem. Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Merci notre Père pour la Bible qui est une parole extraordinaire qui nous aide aujourd'hui et que ça soit notre pain quotidien. Donne une pensée à quelqu'un qui est venu parce que tu veux te faire un passage dans un cœur et répondre à une question peut-être. Merci de saturer ce lieu de la présence du Saint-Esprit pour que ces paroles, Seigneur, puissent être des paroles d'autorité spirituelle et non pas des réflexions humaines. Seigneur, fais-toi un chemin dans ce lieu et dans nos cœurs. Au nom de Jésus, amen. Amen. Pourquoi le virus ? Qu'est-ce que c'est qu'un virus ? J'ai pris une définition et j'ai regardé que le virus est une particule microscopique infectieuse possédant un seul type d'acide nucléique, vous savez, une seule partie d'ADN, qui ne peut se répliquer qu'en pénétrant dans la cellule et en utilisant la machinerie cellulaire donc d'un autre. Les virus sont en général des germes pathogènes. C'est une vaste famille de micro-organismes responsables d'infections. Une caractéristique des virus est qu'ils se multiplient à l'intérieur des cellules de l'organisme qu'ils ont infecté. C'est des saletés, hein. C'est des saletés, les virus. Et quand vous voyez un petit peu l'histoire de l'humanité, il y a eu des épidémies de bactéries, ça c'est autre chose. Mais ce qui fait le plus peur aujourd'hui, quand vous avez entendu parler de tout ce qui se passe avec la grippe H1, maintenant c'est H9, je ne sais plus combien, on s'en sort plutôt bien jusqu'à ce qu'il y ait un virus assez virulent pour s'adapter, améliorer son système de destruction, rentrer dans le corps de quelqu'un, puis passer d'être humain à être humain, jusqu'à la destruction. C'est terrible, vous savez que la grippe espagnole, dans les années, c'était le siècle dernier, c'était exactement il y a un siècle, a massacré des populations terribles. On voit dans les livres d'histoire la guerre 14-18 comme quelque chose d'horrible, mais il y a eu un moment où la grippe espagnole a fait plus de morts, et a détruit plus de personnes, vous imaginez un petit peu? Quand vous êtes une maman, vous enterrez un petit garçon, alors qu'il était en pleine santé, qui du jour au lendemain, est tombé avec un virus. Virus, c'est vraiment des saletés. Et je me suis dit, en lisant la Bible, l'apôtre Paul ne connaissait pas les virus. Moïse non plus ne connaissait pas le mot virus. Ça a été découvert assez récemment, finalement, la notion de virus. Dans les années 50, on a commencé à faire les premières analyses et on a compris ce qu'était un virus. Pourtant, la Bible a été écrite pour nous mettre en garde contre un virus qui s'appelle le péché. Et ce virus, il est terrible. C'est un virus qui a plusieurs formes, qui s'adapte. De quand date l'infection à l'origine? Si on remonte le film et qu'on regarde l'histoire, à partir de quand cette terre a commencé, et surtout les êtres humains ont commencé à être infectés par un virus. Il faut retourner au jardin d'Éden et c'est au chapitre 3 de la Genèse. Jusque-là, c'était un paradis. L'homme, la femme, Ève se baladaient dans les allées de l'Éden et le soir, la présence de Dieu venait et ils étaient bien, ils étaient en communication avec Dieu, ils étaient purs et tout se passait bien. Et puis vient un jour, au chapitre 3, au verset 6, regardez ce qui est écrit. Il est écrit que, alors, la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils ont mangé ça? Leurs yeux s'ouvrirent, c'est-à-dire qu'il y a des modifications comportementales, et l'homme et la femme, qui étaient habitués à être dans la présence de Dieu et être parfaitement en paix, tout d'un coup commencent à ressentir des symptômes qu'ils ne connaissaient pas, comme le stress, la peur, la crainte, l'anxiété. Quand Dieu arrivait, il se cachait.
parce qu'ils avaient été infectés par quelque chose. Vous savez, je suis persuadé que Moïse, parce qu'on pense que c'est lui qui a écrit les livres du Pentateuque, quand il a écrit la Genèse, il est obligé d'utiliser des images pour faire comprendre quelque chose. Et le problème, c'est qu'à l'époque, quand il écrit le livre de la Genèse, 2000 ans avant Jésus-Christ, s'il parle de virus, personne ne va comprendre. Pourtant, ça ressemble extrêmement à un virus, vous imaginez ? Là, ils disent, voilà, elle a pris le fruit de l'arbre, il en a mangé, toc ! Elle en a mangé, infecté, donné à son mari, infecté, et c'est parti. Et c'est comme ça qu'après, Caïn va tuer son frère Abel et que le virus se répand dans l'humanité tout entière. C'est terrible. Le péché, c'est vraiment un virus. Et Dieu a utilisé cette image, mais il aurait très bien pu mettre la notion de virus. Et dans le livre de Romains, on voit un verset qui dit « Car le salaire que verse le péché, c'est la mort. » Et le virus du péché, comme tous les virus, a un seul objectif, retenez cela, de tuer la personne qui est infectée. À partir du moment où le virus du péché rentre en toi, il y a une lutte de tous les jours entre tes anticorps et ce virus qu'est le péché. Le salaire du péché, c'est la mort, et le péché essaye de te détruire. Il fait un carnage et il se passe de personne en personne. Des fois, on a l'impression que notre virus, il est moins grave que les autres, non ? Vous avez quelques petits problèmes de caractère, mais comparé aux pédophiles, aux proxénètes, aux dealers et aux personnes qui battent leurs conjoints, vous êtes juste un ange, non ? Pourtant, vous avez le même virus. L'apôtre Paul écrit aux Romains en disant, au chapitre 2, verset 1er, Romains 2, verset 1er, « Toi donc, qui que tu sois, qui condamne ces comportements des personnes infectées par ce virus qu'est le péché, tu n'as aucune excuse, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui les juges, tu te conduis comme eux. » Oh oh. Et là, il parle aussi à des chrétiens qui ont des problèmes avec la jalousie. Il est en train de parler à une sœur peut-être de l'église de Corinthe qui a un problème avec des accès de colère. Il est peut-être en train de parler à un frère de l'église de Corinthe qui a un problème avec la pornographie. Il est en train de parler à quelqu'un qui a un problème avec la notion d'adultère, qui est en train de convoiter le conjoint de quelqu'un d'autre. Au début, ça part avec des sentiments de frustration, puis ça se transforme avec des sentiments de vouloir la personne que l'autre aime. Et puis, progressivement, le virus se diffuse, et se diffuse de personne en personne. C'est pour ça que vous voyez des familles. Regardez, vous regardez des fois les émissions à la télé sur les grands criminels. Est-ce que vous avez compris ce qui se passe dans la tête du grand criminel ? Vous ne l'avez pas compris tant que vous n'avez pas compris l'enfant, souvent. Et vous voyez qu'à la base, c'était un garçon qui a été battu par son père. Et que son père l'utilisait comme un souffre-douleur, lui donnait des coups, etc. Et cet enfant va intégrer la violence, si bien que quand il va grandir, et qu'il sera complètement décalé, rejeté à l'école, il va développer des sentiments amers, et lui-même, infecté par le virus, va développer quelque chose en lui qui fait que peut-être plus tard, il va violer une jeune fille qui est pour rien de 17 ans. Et cette jeune fille, devenue mère à 18 ans, sa vie détruite va élever un autre enfant, dégoûté de ne pas avoir de père, sentiment d'isolement, sentiment d'être incompris, pas les moyens financiers, jaloux des autres, qui un jour, lui, va faire un casse, un braquage, qui va ruiner une autre personne qui n'était pour rien du tout dans l'affaire, qui va commencer à devenir raciste, anti je sais pas quoi, etc. Et qui va développer par la suite. Et tac, 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 tac. Le virus, il mute, il s'adapte juste à la nouvelle personne, il l'infecte et il passe ailleurs. Et si vous cherchez bien, un jour ou l'autre, le virus vous atteint vous. Parce que le virus atteint tout le monde. Et l'apôtre Paul écrit, dans le chapitre 7 du livre des Romains, au verset 20, c'est terrible, hein ? Tu sais qu'il ne faut pas le faire, non ? Qu'est-ce qu'ont fait les hommes pour éviter le virus du péché ? Qu'est-ce que fait la société pour éviter le virus du péché ? Oh, elle a trouvé une solution qui ne marche pas très bien, parce qu'on a du mal des fois à aller le garder en prison tout le temps. Mais quand on a un pédophile, on se dit, allez, on va lui faire prendre la perpétuité sans remise de peine possible. Et comme ça, peut-être que cette personne qui est infectée va arrêter de détruire des vies. Donc on va mettre des lois. On va mettre des lois et on va mettre des peines. Mais vous voyez ces hommes, des fois, c'est quasiment d'origine démoniaque qui, une fois qu'ils sont sortis, ils ont déjà brisé leur vie, ils ont tué des personnes et ils arrivent et c'est comme plus fort qu'eux. Et vous voyez qu'ils sont détruits à l'intérieur. Et vous pouvez mettre tous les murs que vous pouvez pour vous protéger du virus du péché. Même dans le 16e arrondissement, le péché y passe très très bien. Vous pouvez être dans le droit le plus beau de la terre, vous pouvez être sur une île de rêve. Il y aura des sentiments qui vont venir dans lesquels le virus va passer. C'est la nature humaine. Depuis l'acte initial à ce qui s'est passé en Éden, on se file le virus les uns aux autres par nos comportements, par nos façons de penser, par nos blessures, on transmet aux autres. Et l'apôtre Paul dit, je me débats contre quelque chose que je sais qui n'est pas bien en moi. Si donc, verset 20, je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. On pourrait dire c'est le virus, hein, il ne connaissait pas le mot virus, l'apôtre Paul, mais je pense qu'il pourrait dire le virus du péché. Lorsque je veux faire le bien, je découvre cette loi, c'est le mal qui a ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans tout mon être et qu'elle combat la loi qu'approuve ma raison. Elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Et je vous rappelle la définition du virus, c'est que le virus a besoin d'être dans un membre pour pouvoir se développer. Malheureux que je suis, dit l'apôtre Paul, qui me délivrera de ce corps voué à la mort. À la mort. L'apôtre Paul est infecté. Donc c'est pas gay. Alors on a essayé d'inventer des lois, des règles. On dit aux chrétiens, faites pas ça, faites pas ceci, faites pas cela. Ça va limiter la propagation du péché. Je pense que les lois sont efficaces parce que, enfin efficaces, permettent d'éviter que ça soit, c'est des murs qui permettent d'éviter que la propagation soit trop rapide. Dans des églises, même légalistes, on va mettre en place plein de systèmes de protection, on va essayer d'inventer des lois, des règles, faut pas faire ceci, faut pas faire cela, faut pas faire ceci. On va commencer à tout codifier pour dire, comme ça peut-être qu'on sera pas infecté. Mais l'apôtre Paul les a mises en place et ça marche pas. Vous pouvez mettre toutes les lois du monde, devenir des ascètes, vous planquer au milieu de nulle part, vous aurez quand même des sentiments mauvais qui vont naître. Je vous ai dit en introduction que ce film m'a bouleversé, parce qu'il y a un moment où Brad Pitt, dont je n'ai pas le physique, je reconnais. Par contre, je pense que, question de réflexion, peut-être je peux comparer, se dit « j'arrive pas à trouver ». Comment on peut faire pour éradiquer ce virus qui est le plus puissant de tous les virus? On n'arrive pas à trouver de vaccin. On n'arrive pas. Et Brad Pitt, avec son intelligence de Brad Pitt, a quand même un mérite. C'est qu'il va voir un biologiste, un professionnel médical, un savant un peu fou, un peu bizarre, un peu autiste, et qui dit « les virus n'ont qu'un seul but, c'est tuer, amener l'organisme jusqu'à la mort. » Mais il y a une faille, comme dans tous les virus, il y a une faille. Il y a certainement un endroit ou quelque chose qui fait que le virus peut être piégé. Et Brad Pitt et le chercheur se rendent compte que le virus ne s'attaque pas à un être humain qui est déjà condamné à mort. Si jamais la personne est déjà condamnée, il n'y a plus de challenge pour le péché. C'est pour ça que Satan s'attaque à ceux qu'il cherche à tuer spirituellement. Mais une fois que vous êtes spirituellement mort, pour Satan, vous êtes juste qu'un raté. Et Satan a un seul but, amener à la mort. Une fois qu'il a amené à la mort, il a l'impression d'avoir terminé son job. Ouf, suivez là, ça devient... Oh, j'ai besoin d'avoir votre attention là. C'est pourquoi Jésus, quand il vient sur la terre, est envoyé par Dieu envoyé par Dieu. Le mot, c'est Messie, le Christ en grec. Et c'est pour ça que quand Simon-Pierre dit à Jésus, en tête à tête, le premier texte qu'on a lu ce matin, « Tu es le Christ, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus s'arrête et dit « Simon-Pierre, sur cette déclaration-là, je bâtirai mon Église. » Et un petit peu après, il dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » C'est après quoi ? C'est après que Simon ait dit, et c'est après que Jésus ait dit à Pierre « Je vais mourir. » Et Simon dit « Non, 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 c'est n'importe quoi ça !» Il n'a pas compris que l'objectif du Christ, le virus ne s'attaque pas à un être humain qui est déjà condamné à mort. Le Christ, en allant lui-même volontairement à la croix, est devenu, vous connaissez ce texte, j'ai trouvé bizarre pendant des années, est devenu péché pour nous. Ça veut dire que il a attiré le virus du péché pour le plonger dans la mort. Et c'est ce qui est écrit dans Colossiens. Il est écrit, vous qui étiez morts à cause de vos fautes, vous qui étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ, il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé en le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, en les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire de la croix. Est-ce que tu comprends ce qui se passe lorsque Jésus parle avec Simon? Il dit, Simon, il faut qu'on règle ce problème du virus du péché. Je vais aller mourir. Et Simon dit non. Et Jésus dit si, arrière de moi, Satan, qui essaye d'être malin et de m'empêcher d'aller jusqu'à la mort de la croix. Je vais prendre sur moi tous les péchés du monde. Je vais prendre sur moi la méchanceté, la violence, l'adultère, les dépendances à l'alcool, les dépendances au sexe, tout ça, je vais tout prendre, la pornographie, je vais prendre les rancœurs, les manques de pardon. Je vais, comme si tout le péché a afflué vers Jésus à la croix. Et Jésus savait que le seul moment où le péché lâcherait l'affaire, c'est quand il serait mort. Alors Jésus a aspiré, a attiré le péché et allé jusqu'à la croix et là, il est mort. Et le diable a jubilé pendant 3 jours. Pendant 3 jours, les puissances de l'enfer disent, on a réussi à infecter le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le 3e jour, à la stupeur de l'enfer, la tombe, Pierre a été roulée et il est vivant. Et c'est pour ça que Jésus disait, c'est là-dessus que je vais bâtir mon église, apôtre Pierre. Parce que tu es le Christ, quand Pierre a dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, là Jésus a dit c'est là-dessus que je bâtis mon église. Mon église ne peut être bâtie que par un seul vaccin. Un vaccin qui n'est pas dans une fiole, qui n'est pas dans un petit comprimé que tu ouvres à la maison. Ce vaccin, il est représenté par une croix. Et c'est le seul vaccin qui existe sur la terre pour toute personne qui vient d'Afrique, qui vient des Antilles, qui vient d'Asie, qui vient d'Amérique du Sud, qui vient d'Europe. Dieu a donné un vaccin au péché. Il l'a amené jusqu'à la mort de la croix. Et là, il a triomphé des puissances de l'enfer. Il a piégé le virus à la croix. Et ça, c'est extraordinaire. Mais vous allez me dire, mais pasteur, vous me dites que c'est l'Église. Non, jusque-là, je n'ai pas parlé d'Église. Mais vous voyez qu'est-ce qu'a dit Jésus à Pierre. C'est mon 2e point. Après le point sur le virus, pourquoi l'Église? Parce que Pierre, une fois que tu seras revenu, affermis tes frères, va chercher les frangins et bâtissez quelque chose qui sera mon laboratoire contre le virus du péché. Un endroit où sera bâtie une protection, où vous allez développer ensemble comme une église, comme un corps assemblé. En grec, le mot église, c'est ecclésia. Je vais créer un nouvel endroit sur la terre. là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, et je ferai ça une assemblée. Et une assemblée qui sera là, une ecclésia, une église que je vais bâtir, que je vais former, que je vais faire grandir, contre laquelle le péché ne pourra rien. La mort ne pourra pas vaincre l'église, c'est ce que l'on a vu en introduction. Et c'est là que Jésus a inventé, après avoir donné sa vie pour être le vaccin, il a dit, le vaccin, il faut le donner dans un hôpital. Et cet hôpital, c'est l'église. Et sans une église, vous pouvez avoir un vaccin. Mais le problème, c'est que vous vous laissez distraire par le péché au bout de quelques jours. Vous prenez une bonne résolution. Vous dites, j'arrête de fumer. Vous dites, j'arrête l'alcool. Vous dites, j'arrête le sexe hors mariage. J'arrête ceci. Et ça tient combien de temps? Et ça tient un certain nombre de jours. Puis le péché s'adapte à votre raisonnement. Il essaye de muter comme un virus et il revient à la charge. Et puis à force, avec votre solitude, votre tristesse, votre mélancolie, bang ! Il vous réinfecte. Et là, est-ce que vous allez avoir la force d'encore regarder à la croix ? Pas tout le monde. C'est pour ça que le Christ a dit, Pierre, sois pas tout seul après. Une fois que j'aurai donné ma vie pour toi, et tu seras sauvé. Reste pas dans ton coin. Viens et affermis tes frères. Fais un bloc. Crée un laboratoire. Crée un endroit médical dans lequel le virus du péché est combattu vraiment. Et c'est les deux missions de l'Église. La première mission, elle est défensive. Grâce à l'Église. C'est un endroit où on distribue un antiviral, le seul antiviral, qui s'appelle la mort de Jésus à la croix. Et c'est le seul moyen de vaincre le péché. Et c'est pour ça que lorsque vous venez dans une église, en général, vous péchez moins. Enfin, je pense que depuis que vous êtes assis sur votre chaise, vous avez eu, j'espère que vous n'avez pas eu trop de pensées d'adultère, pas trop de rancœur contre votre voisine qui ne vous a encore pas dit bonjour hier et qui est insupportable, etc. Parce que quand vous êtes dans ce laboratoire, on est comme mieux. Une église, c'est imparfait, c'est un laboratoire qui reste humain, qui est dirigé par le Saint-Esprit. Il est dit que le Saint-Esprit, je n'ai pas le temps de lire tous les textes, sinon je vais être trop long, mais le Saint-Esprit, vous vous rappelez tous ces textes, il dit le Saint-Esprit qui édifie l'Église dans Actes, il est dit le Saint-Esprit ajoutait à l'Église chaque jour des âmes. Le Saint-Esprit a donné des dons, parce que vous voyez dans le laboratoire, il faut que les chercheurs, ils aient des moyens de bosser. Vous savez les dons que Dieu a donnés à l'Église? Il a donné déjà des chercheurs spécialisés, des pros dans leur domaine en biologie. On n'a pas tous les mêmes capacités, on est d'accord, en biologie. Hein, ben, en biologie spirituelle, on n'a pas tous les mêmes capacités non plus. Il est dit dans Éphésiens 4, c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui vient de la vie du Christ, qui vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus comme des petits enfants ballottés comme des barques par des vagues emportées par des vents, toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est un laboratoire génial dans lequel Dieu a donné des prédications, Dieu a donné des paroles de connaissance, Dieu a donné des dons qui sont... C'est pour ça que dans les églises, il se passe des choses des fois qui ne se passent pas ailleurs. Moi, j'ai vu des miracles, des personnes guéries, des choses comme ça. Waouh ! Il faut un laboratoire pour faire des expériences comme ça. C'est extraordinaire, le laboratoire. C'est un endroit défensif, extraordinairement défensif. Alors, je te pose une question. Qu'est-ce que tu fais avec tes enfants, là ? Alors, regarde, t'imagines un petit peu. Toi qui as un enfant, qui as un ado, là. Tous les jours, quand il se lève, il est en contact avec le péché. Tous les jours, ses camarades de classe, ses amis peut-être avec qui traînent à la fin de l'école, sont infectés. On est virusés, mes amis. Chrétiens ou pas, on est virusés sans arrêt agressés. Si jamais ton enfant avait un virus, comme le virus qui vient là qui a eu d'Arabie Saoudite récemment, là, je ne sais plus quelle grippe c'est celle-là. tu te précipiterais pas pour l'amener dans un hôpital ? Honnêtement, quel est le parent irresponsable qui dirait « Ah ben, tu es un petit peu fatigué aujourd'hui, bon, t'as un virus, ben, reste mourir à la maison alors. » Ça vous fait sourire, méfiez-vous, parce qu'on aura des comptes à rendre au ciel. Hein, parce qu'il vous a confié des enfants. Et vous vous dites « C'est pas grave, écoute, plus tard, tu vas choisir avec tes anticorps, tu vas te battre et tu vas être un héros tout seul contre le virus. Et puis si tu meurs, ben écoute, tu auras choisi de mourir. Hein. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est criminel. Parce que si Dieu a créé un laboratoire dans lequel on peut ensemble prier, être enseigné, nous faire du bien contre le virus, mais quel orgueil de pouvoir dire « Non, c'est facultatif. Pas besoin d'aller à l'hôpital. Je vais faire ma trithérapie toute seule. » Eh bien, bonne chance. Bonne chance. Parce que dans certains pays, ils meurent pour aller dans un laboratoire. Au Darfour, pendant des années, ils sont morts pour aller dans un laboratoire, à l'époque où la charia régnait. Aujourd'hui, dans certains pays comme au Laos, en Birmanie, dans certains coins, au Pakistan, il y a des personnes qui risquent leur vie pour aller le dimanche dans un laboratoire secret, dans une petite maison pas climatisée comme aujourd'hui, où ils meurent de chaud, où ils sont très mal, mais ils se disent « il n'y a pas de meilleur endroit que la maison de Dieu ». Mais toi, parce que t'es pas, forcément, toi, t'es pas infecté, toi. Toi, t'es en pleine forme spirituelle. Tu peux te permettre de pas aller à l'église, toi. On n'est pas sérieux, mes amis. C'est un laboratoire défensif et puis c'est un laboratoire offensif. Et c'est par là que je termine ce matin. Parce que l'autre aspect, wow, c'est qu'on a le vaccin. Il faut le réinjecter régulièrement. Il faut retourner à la croix. C'est pour ça que Dieu a dit, chaque fois que vous vous réunirez en mon nom, vous partagerez. Vous ne savez pas la suite du verset ? C'est tous les dimanches pourtant. Le pain et le vin qui symbolisent la mort à la croix, et vous annoncerez ma résurrection, le fait que j'ai vaincu le virus jusqu'à ce que je revienne. Chaque fois que vous vous réunirez, vous irez à un endroit, vous prendrez du pain. Ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en mangerez jusqu'à ce que je revienne. Et vous comprenez, c'est quoi l'Église ? C'est ce laboratoire extraordinaire. On est en défensif et on se fait du bien. On a accès à la Sainte Seine, on a accès aux miracles, on a accès aux... Et puis on proclame pour les autres après. C'est là où on devient offensif. C'est quand tu commences à parler à tes voisins en disant « Mais j'ai le vaccin. Je ne vais pas le garder tout seul, non ? » Vous êtes suffisamment égoïste quand vous avez trouvé un vaccin pour dire « Ah, vous allez faire comme ces pays occidentaux qui au début ne voulaient pas donner les vaccins antiviraux en Afrique parce qu'on va le garder pour nous. Ça nous a coûté trop cher en recherche. On peut produire des trithérapies pour trois fois rien, hein. Une fois que vous avez découvert la molécule, ça coûte très peu cher à produire la trithérapie. Mais pourquoi on ne l'a pas alors partout ? Parce qu'une fois qu'on a payé pour l'avoir, c'est à nous. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens, une fois qu'ils ont payé pour avoir accès au salut, c'est à nous. J'ai fait le ménage dans ma vie, ils n'ont qu'à faire le ménage dans la leur. Puis moi maintenant je suis devenu quelqu'un de bien. Ah, moi j'ai vaincu la colère, j'ai vaincu la cigarette, moi je suis bien moi. Moi, mes enfants, là, ces petits bouts de chou, maintenant. Mais tu ne comprends pas que Dieu veut que tu donnes, que vous êtes des ambassadeurs de Christ. Dieu veut que tu dises, wow, mon cher ami, j'ai trouvé le vaccin. Le vaccin n'est pas l'Église, hein. Comprenez bien. Le vaccin, c'est la mort de Jésus à la croix. L'Église, c'est le laboratoire dans lequel on distribue gratuitement le vaccin. Et c'est ça qu'on doit faire. Et c'est ça qu'on doit faire. La Bible dit « Allez dans le monde entier, apportez la bonne nouvelle. » Alléluia ! Vous savez, avant une bonne nouvelle, il y a toujours une mauvaise nouvelle. Hein. J'ai deux choses à te dire, une bonne et une mauvaise nouvelle. Laquelle tu veux d'abord ? Dis-moi d'abord la mauvaise. La mauvaise, c'est quoi ? Tous sont perdus et sont privés de la gloire de Dieu. et la bonne. On a le vaccin. Allez par tout le monde. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Faites de toutes les nations des disciples, des amis de Christ. Faites-les rentrer dans la famille, qui viennent de n'importe quel continent. Faites-les connecter ensemble. Oh. Vous avez compris ce que c'est que l'Église. Oh, l'Église, elle est imparfaite. Oh, je suis triste des fois de voir les églises. Parce que vous savez, le diable, il est malin. C'est comme ça qu'on l'appelle d'ailleurs. Il envoie des bons virus. Tout le virus du péché, vous voyez, il peut muter. Il peut muter dans des péchés sexuels. Il peut muter dans des péchés de violence. Il peut muter vers des péchés d'orgueil. Et ça, il les envoie vers l'Église, vous voyez. Et c'est pour ça que l'Église primitive, ils ont dès le début des problèmes avec des attaques de virus spécialisés anti-Église. L'église de Corinthe, ils ont commencé à se prendre la tête pour savoir qui était le meilleur. Ah, qui est le meilleur prédicateur? Qui est le meilleur leader? Mon église, c'est la meilleure église qui existe sur la terre. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de Paul. Et puis, il y a quelqu'un qui est plus fort. Moi, je suis de Jésus-Christ. Il dit ça dans 1 Corinthiens. Et l'apôtre Paul dit, mais vous avez rien compris ou quoi? On est tous sauvés par grâce. Alors, les prédicateurs commencent à s'enflammer. Ils oublient que le vaccin, c'est pas eux, c'est Christ. Puis à l'autre bout, il y a aussi l'autre problème. Des fois, il y a des églises, ah, nous, on ne valorise pas l'homme. Mais il y a un autre endroit dans la Bible où on parle de la Sainte-Seine, notamment, où il est dit, alors regardez, ça c'est aussi une autre église, c'est quelque chose, toujours Corinthe. Ils sont passés d'un extrême à l'autre. Puisque j'en suis aux directives, ils vous font mentionner un point sur lequel je ne saurais pas vous féliciter. Lors de vos réunions, au lieu de contribuer à votre progrès, vous font devenir pire. Lorsque vous vous réunissez, on ne peut vraiment plus appeler cela prendre le repas du Seigneur. Car à peine êtes-vous à table, que chacun s'empresse de manger ses propres provisions et l'on voit des gens manquer de nourriture pendant que d'autres s'enivrent. Ouh ! Ben c'est ça l'Église aussi. Alors des fois, effectivement, on ne va pas mettre un prédicateur star, mais on met juste une grande bande de chrétiens égoïstes qui viennent à l'Église par routine. Et qui n'en ont rien à faire des besoins de la personne qui est à côté d'eux, à côté d'elle. Et vous avez une église très indifférente, voire cynique. Comment tu vas, frère? Je vais bien, je vais bien. Et en fait, on n'a rien à cirer, pardonne-moi l'expression, de comment va l'autre. Qu'il se débrouille lui-même avec son virus. Deux dangers pour l'église, l'orgueil et l'égoïsme individuel. Et Satan arrive comme ça à freiner les laboratoires. Et quand ça marche bien, il arrive même à casser un laboratoire. Et vous avez des églises qui explosent comme ça, qui explosent avec de l'orgueil, avec de l'égoïsme, avec des leaders qui ne se sentent plus tellement ils montent. Puis avec des chrétiens, et puis des divisions, vous voyez tout ça. Et Dieu, il pleure, et il se dit, mais c'est pas vrai. Je leur ai donné le vaccin, je leur ai donné une mission. Donnez-le entre vous et distribuez-le aux autres. Et ça, ils ne sont même pas capables de le faire. À fermer les yeux ensemble. Mon Seigneur a attaqué frontalement dans sa chair le péché. Puisque le virus ne s'arrête que quand la personne est morte, il est allé jusqu'à la mort de la croix. Là, il a livré en spectacle les dominations, les autorités, il a triomphé d'elles. Il te demande une seule chose, de prendre soin de sa fiancée. Sa fiancée qui est l'Église, là où deux ou trois sont assemblés en son nom. C'est pas un bâtiment. C'est pas une structure. C'est pas une institution. L'Église, c'est une assemblée de chrétiens, une ecclésia. Si vous puissiez aimer l'Église comme Christ a aimé l'Église. Est-ce que vous avez déjà béni votre Église dans laquelle vous êtes ?
Oh, une église imparfaite, certainement attaquée, avec plein de personnes infectées comme vous dans l'église. Est-ce que vous, depuis combien de temps, vous n'avez pas pris le temps de bénir votre église? Vous qui écoutez ce message, depuis combien de temps n'êtes-vous pas allé dans une église? Un membre souffre-t-il, tous les autres souffrent avec lui? Un membre est-il à l'honneur, tous les autres partagent sa joie? Or, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ. Et chacun de vous, en particulier, en est membre. C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les enseignants. Puis viennent les dons suivants qu'il a fait dans l'Église, les miracles, les guérisons des malades, l'aide. Là, on parle peut-être d'aide sociale, aide humanitaire. La direction de l'Église, le parler dans des langues inconnues. Tous sont-ils apôtres? Est-ce que ce matin, tous sont prophètes? Est-ce que toi qui écoutes ce message, tu es un enseignant? Tous vont-ils faire des miracles? Est-il donné à tous de guérir les malades, de parler dans des langues inconnues, d'interpréter? Évidemment non. Alors aspirez aux dons meilleurs. Et je vais vous présenter, indiquer l'approche par excellence. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour est patient, il est plein de beauté, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit, en toute occasion il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère, l'amour n'aura pas de fin. Je souhaite que l'Église soit un laboratoire, comme Dieu le veuille. Une chose que je désire ardemment, disait David, lui qui avait beaucoup péché, qui avait été beaucoup infecté. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Il avait compris que c'était dangereux de rester sur une terrasse des fois.
Une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est.
Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va remercier Dieu pour les églises qu'il nous donne, quelle que soit votre église.
Une chose que je désire ardemment. Dans la maison du Seigneur. une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison.
Alors qu'on est debout, je voudrais qu'on commence à crier à Dieu pour nos églises. Qu'on dise, Seigneur, protège mon église. Elle a plein de défauts, mon église. Elle est remplie de personnes infectées. Mais c'est normal, c'est un laboratoire contre le virus du péché. Commence à prier pour ton église. Si t'es de passage, commence à prier pour ton église aux Antilles. Commence à prier pour ton église en Afrique. Commence à prier pour ton église locale si tu es visiteur ce matin. Commence à prier que le Saint-Esprit vienne tellement fort, lui qui construit l'église, qui sature ton église d'amour et que tu sois vraiment quelqu'un qui porte vers le haut. Loin de tout orgueil, de tout égoïsme. Oh Seigneur, on a tellement de progrès à faire. On est des mauvais chercheurs, Seigneur. Mais qu'est-ce que tu veux nous donner des dons, Seigneur, enrichis ton Église. Donne des dons de miracles, des dons de guérison. Donne des nouveaux prophètes, des enseignants dans ton Église. Donne des femmes de prière, donne des personnes qui ont à cœur l'aide sociale dans nos Églises. Seigneur, donne-nous d'être une vraie Église qui porte une solution, qui porte fièrement le vaccin contre le péché. Alléluia. Alléluia. Ah, je voudrais te demander aussi, alors que les frères s'avancent pour la Sainte Cène, mais restons debout tous pour l'instant encore. Je voudrais te demander, parce qu'on est tellement égoïste et ça nous rattrape si vite, est-ce que tu peux terminer cet instant en priant pour quelqu'un qui a quitté le laboratoire depuis plusieurs mois, peut-être plusieurs années, et qui essaye de s'en sortir tout seul avec son antiviral et qui n'arrive pas? Alors commence à prier pour cette personne. Peut-être pour qu'elle rejoigne un laboratoire près de chez elle où on travaille contre le péché. Peut-être tu vas prier pour des membres de ta famille, peut-être tu vas prier pour tes voisins. Seigneur Jésus. Oh mon Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus, alléluia. Et toi-même, laisse le Saint-Esprit te changer ton caractère pour rendre l'Église plus belle. Tu sais, le sang de Jésus parle beaucoup mieux que tous les discours entendus sur la terre. Il parle pour ta défense, te donne ta justice. Alléluia.